10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Il y a un an, il estimait que pour le président de la République, l'écologie était une variable d'ajustement. Il y a 9 mois, il refusait de succéder à Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique. Et puis il y a 2 mois, surprise, il a plongé, il a dit oui pour être numéro 2 de la liste Renaissance menée par Nathalie Loiseau et soutenue, très soutenue par Emmanuel Macron. En 2009, c'est sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts que notre invité avait fait son entrée au Parlement européen. L'écologie ne serait donc plus une variable d'ajustement pour le président. Il va nous expliquer depuis quand. L'écologie est donc au cœur du projet européen que la liste Loiseau entend porter. Quel projet précisément, avec quels alliés? À 7 jours du scrutin, alors que les droites populistes et nationalistes se sont livrées hier à Milan à une démonstration de force et que la liste du Rassemblement National semble gagner du terrain en France, derniers arguments de campagne pour la liste Renaissance. Bonjour Pascal Canfin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Du grand rendez-vous. Vous êtes donc numéro 2 sur la liste Renaissance, une liste soutenue par La République En Marche, Le Modem et Agir. Vous avez été ministre au développement sous la présidence de François Hollande. Vous avez été, je l'ai dit, député européen, c'était en 2009, c'était sur la liste de Daniel Cohn-Bendit. Et vous avez donc quitté votre poste de directeur de WWF France pour donc vous lancer dans cette campagne. Et donc c'est le moment ou jamais pour vous expliquer sur cet engagement et sur le projet européen que vous défendez. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Et Damien Fleurot, chef du service politique de CNews. Damien Fleurot qui vous pose la première question.
Oui, Pascal Canfin, coup de force hier des droites nationalistes et populistes en Europe avec ce rassemblement à Milan, assez inédit sur la forme. Est-ce que vous avez peur de cette poussée, de ces coalitions un peu partout en France et en Europe?
Bien sûr. Bien sûr, on a le droit d'avoir peur, on a même le devoir d'avoir peur. Pourquoi ? Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est un affrontement politique mondial. Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump, de l'extrême droite américaine, est en France en ce moment, avec des nuits à plusieurs milliers d'euros au Bristol, juste à côté de l'Élysée. J'aimerais bien savoir qui paye les
mais
nuits.
Il a pas le droit d'être en France,
évidemment, le droit d'être en France, mais qui paye ces nuits à 2500 euros? Moi, ça m'intéresse de savoir quels sont les circuits financiers qui sont derrière tout ça. Il a évidemment le droit d'être en France. Simplement, le message qui est passé, c'est quoi? C'est qu'on est au fond face à une sorte de nouvelle internationale, qui est une internationale d'extrême droite, qui est en train de se coaliser avec un premier objectif majeur, qui est de détruire l'Union européenne.
Vous dites nouvelle internationale de l'extrême droite?
Bien sûr. Bien sûr, c'est la nouvelle internationale de l'extrême droite. On la voit sous nos yeux. Salvini, Le Pen, Orban, Trump, Bannon, Poutine. C'est ça le système qui est en train de se concrétiser pour détruire l'Union européenne. Et aujourd'hui, le Front National, c'est l'idiot utile de ce projet politique. C'est le cheval de Troie de Trump et de Poutine pour détruire l'Union européenne en Europe avec Salvini, avec Orban, avec 2-3 autres alliés européens. Et c'est ça la grande bataille de cette élection. Ce n'est pas un sujet franco-français. Donc vous allez évidemment me poser des questions sur les conséquences françaises, sur la vision franco-française. Mais on le voit bien aujourd'hui, c'est un affrontement politique mondial. Et face à cet affrontement politique mondial, je le dis aux électeurs qui hésitent à aller voter le 26 mai, qui se disent « mais pourquoi on parle de 60% d'abstention ?» Eh bien je le dis, ne restez pas chez vous, parce que c'est notre avenir démocratique qui se joue le 26 mai.
Donc faire barrage uniquement?
C'est pas uniquement, mais... Là, vous m'avez posé une question sur ce sujet et vous m'en poserez d'autres sur le projet européen que l'on défend. Et je vais avoir, j'espère, l'occasion de le présenter en détail. Parce que moi, je m'engage pour, je ne m'engage pas d'abord contre. Mais la réalité du jeu politique mondial. Et Steve Bannon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a 2 pays clés dans cette élection européenne, l'Italie et la France. Et donc, la répercussion de qui gagne cette élection le 26 mai en France, et tous les sondages le disent, il n'y a que 2 gagnants possibles. Soit la liste sur laquelle je suis soutenu par le président de la République, soit le Rassemblement National. Eh bien, la répercussion sera non seulement française, bien évidemment, mais elle sera européenne, tout le monde va regarder et elle sera mondiale.
Mais
donc,
ne restons pas chez nous. Qu'est-ce que vous craignez qu'il fasse? Il y a vendredi, Emmanuel Macron disait leur bilan au sein du Parlement européen est catastrophique, il est nul. Finalement, même avec cette vague populiste, souverainiste qu'on attend, vous avez raison, au niveau européen, qu'est-ce qu'il pourrait faire?
C'est pour ça qu'il y a deux
réalités.
Il y a deux réalités. Il y a la dynamique politique qu'ils auraient si le Front National ou le Rassemblement National terminait premier en France et Salvini premier en Italie et Orban premier, etc. Ce serait une réelle dynamique politique que, évidemment, qui me fait peur.
Ils sont
peur parce que leur projet,
hein,
on est aujourd'hui dans la marge d'erreur, mais
2-3 points
on peut le dire, on est au coude à coude et on sera au coude à coude jusqu'à la dernière seconde et au dernier bulletin de vote. Donc chaque voix comptera dans ce coude à coude, évidemment. Et par ailleurs, c'est vrai que le bilan politique du Front National depuis 5 ans, c'est zéro. C'est zéro, mais il y a la dynamique politique de l'avenir et puis il y a le bilan. Et il faut bien regarder les deux différemment. Donc je me suis exprimé sur la dynamique politique et les craintes que ça représente, évidemment, pour la France et pour l'Union européenne. Vous m'interrogez sur le bilan. Le bilan depuis 2014, puisque la France a comme première délégation pour la représenter au Parlement européen, les députés du Front National. Eh bien, depuis 5 ans, l'influence de la France a considérablement diminué. Pourquoi? Parce que quand votre première délégation s'oppose à tout, vote contre tout, y compris les projets de loi sur la lutte contre le terrorisme, y compris l'accord de Paris sur le climat. Le Front National n'a même pas été capable de voter pour l'accord de Paris, fait à Paris, Made in France, sur le climat. Donc on voit bien que c'est une opposition totalement absurde, purement idéologique. Tout ce qui vient de l'Europe est mauvais, par construction. Ce qui fait que ça dessert notre capacité à peser en Europe. Et donc, on a énormément perdu. Et donc, une voix du Front National, un siège du Front National à Bruxelles et à Strasbourg, au Parlement européen, c'est une voix de moins pour la France.
Nicolas Barré.
Il y a une crise politique majeure en ce moment en Autriche. Le vice-chancelier d'extrême droite, Heinz Christian Strache, a démissionné à la suite de révélations montrant qu'il était prêt à se faire financer par un oligarque russe. Il se trouve que Strache est un allié de longue date de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a pas souhaité commenter ce scandale. Vous lui demandez de s'expliquer?
De s'expliquer.
Sur cette proximité?
C'est une réalité, elle n'a pas besoin de s'expliquer. C'est la réalité de la nouvelle internationale que j'évoquais et du nouveau système. Marine Le Pen, c'est la candidate d'un nouveau système. Ce système, c'est le système Trump-Poutine. C'est le système qui veut détruire l'Europe et qui a des alliés dans plein de pays européens, notamment l'Autriche. Et évidemment, la question des liens financiers se pose. Ils sont souvent masqués, ils sont souvent sous la table. Mais vous avez des tas de députés européen, Thierry Mariani, député numéro 3, je crois, de la liste Rassemblement National aujourd'hui, va régulièrement en Russie, va participer soi-disant à des conférences.
Mais vous l'accusez de se faire financer par les Russes?
Il y a aujourd'hui une internationale qui est en train de tisser son réseau, et quand tout d'un coup ça sort, grâce à une caméra cachée, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on apprend? Je ne suis pas un journaliste d'investigation de ces sujets, donc moi je l'apprends comme vous. Que évidemment il y a des liens financiers et que finalement ils acceptent de l'argent de Poutine.
Mais là vous pensez que la liste Rassemblement National est financée par Poutine?
Je ne pense rien, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous lancer une petite phrase comme ça. Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que quand ça sort, immédiatement le circuit financier qui est derrière, c'est lié à la Russie. Et quand on voit aux États-Unis, les enquêtes très très puissantes qui sont en cours, que Trump essaye de bloquer, mais qui vont, je l'espère, finir par avancer pour montrer les liens entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donc c'est une toile d'araignée qui est là, qui est malheureusement cachée. C'est la réalité des flux financiers occultes et des accords opaques par construction. Mais elle est en train d'émerger grâce à certains journalistes d'investigation et bravo à eux. Et donc je dis aux Français, ne vous laissez pas piéger. Ne nous laissons pas avoir, ne soyons pas les représentants et les dindons de la farce de cette nouvelle internationale d'extrême droite.
Vous dénoncez le bilan des députés du Rassemblement National sortant à Strasbourg, mais dans les derniers sondages, l'écart semble se creuser entre votre liste et celle emmenée par Marine Le Pen, Jordan Bardella. Quelles conséquences si le 27 mai, c'est effectivement la liste de Marine Le Pen qui sort en tête?
C'est d'abord des conséquences pour l'Europe. C'est ce que je vous dis, et on va parler d'Europe aujourd'hui. Les conséquences.
Marine Le Pen dit il doit partir, Emmanuel
Macron.
Alors
ça, c'est écrit nulle part. Alors, c'est amusant parce que vous dites Emmanuel Macron s'engage dans la campagne, vous disiez très soutenu en insistant dans votre introduction par le président de la République.
Beaucoup le président de la République dans cette campagne.
Vous avez raison, on le voit beaucoup. Et il a été élu sur un projet en 2017. D'accord ? Il a été élu sur un projet qui est très largement européen. Il a fait le discours de la Sorbonne. Il a mis, contrairement à ses prédécesseurs, énormément de propositions sur la table pour transformer et réformer l'Europe.
Mais le 27
c'est l'ADN du macronisme. Il a été élu pour ça. Et donc, c'est normal que Macron, l'Européen, s'engage dans les élections européennes. Imaginez le scénario inverse. Imaginez que Emmanuel Macron
mais
ne dise rien.
S'il perd, entre guillemets, c'est-à-dire
d'accord
que si votre liste arrive en deuxième position.
Vous seriez les premiers à dire, mais qu'a fait Emmanuel Macron dans cette campagne? Donc, c'est normal qu'il s'engage, c'est souhaitable qu'il s'engage. Et effectivement, quand il s'engage, ben, ça mobilise deux types d'électorats. Et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, ça mobilise celui qui soutient le président de la République. C'est ce qu'on a vu globalement la première semaine là où il s'est engagé. Et puis ça mobilise, et d'ailleurs le Front National le dit, ça mobilise l'électorat anti-Macron. Et donc quand il s'engage, il le fait tout en ayant parfaitement conscience du risque politique que ça représente. Mais moi, je préfère un président qui prend des risques plutôt qu'un
alors,
président qui se cache.
Qu'est-ce qui se passe
coup,
au soir du 26
mai ? La troisième semaine, c'est-à-dire la semaine dans laquelle on entre maintenant, qui est la dernière semaine de campagne, ben c'est celle où notre électorat, ceux qui ont voté Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle et qui hésitent aujourd'hui, parce qu'ils peuvent avoir des frustrations, parce qu'ils peuvent se dire « Ah oui, mais il a fait ceci, il aurait dû le faire autrement », c'est vrai, peut-être, personne n'est parfait. Mais franchement, quand on regarde l'importance historique de l'enjeu,
Pascal,
pour l'Europe,
qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron?
Je vais répondre à votre question, mais quand on regarde l'enjeu historique de cette élection, on peut mettre de côté ces petites frustrations qu'on peut avoir par rapport à ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2 ans et se dire, là, il faut être au rendez-vous. Ensuite, quelles sont les conséquences pour la France? Moi, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas Emmanuel Macron, je ne suis même pas membre du parti politique En Marche. Donc je peux difficilement, et sans faire de langue de bois, je peux difficilement répondre à votre question, puisque je n'ai aucun élément d'information d'une part, et d'autre part, je ne serai pas dans la décision qui sera prise. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quelles seront
et
les conséquences que le président de la République pourra tirer au plan national de, ce résultat. Ce que je sais, c'est qu'on se bat pour gagner, parce que c'est un enjeu historique.
Pascal Canfin, numéro 2 sur la liste Renaissance, est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant pour détailler le projet européen défendu par Pascal Canfin.
Europe 1, 10h, 11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Pascal Canfin, numéro 2 de la liste Renaissance menée par Nathalie Loiseau, est l'invité du Grand Rendez-vous. On va détailler votre projet européen et votre projet écologique en matière d'écologie dans votre projet européen. Mais d'abord, une réaction à ce qui a fait l'actualité de la semaine. Un rapport sénatorial qui a remis sur le tapis la question du glyphosate. Une question de Nicolas Barré.
Oui, d'ailleurs, un sénateur a même dit que ce pesticide était moins cancérogène que la charcuterie.
C'est très inquiétant pour le saucisson.
Ou la viande rouge, voilà. Hier, à ce micro, le directeur général de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, déclarait qu'il n'y a pas de risque sanitaire avec les produits à base de glyphosate, dont l'utilisation est strictement encadrée. Donc c'est très clair, pas de risque sanitaire. C'est aussi ce que disent 11 agences équivalentes un peu partout dans le monde. Du coup, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument en sortir du glyphosate? Est-ce que ce n'est pas une posture un peu démagogique pour plaire aux écolos, en gros?
Et dans le même temps, la justice américaine condamne Monsanto justement sur la base de la dangerosité du produit. Donc on voit bien qu'on est dans un moment d'incertitude probablement scientifique, mais avec un faisceau d'indices qui existe et qui démontre qu'à la fois cet herbicide qui est le plus utilisé au monde, donc ce n'est pas une paille, ce n'est pas qu'un symbole, est probablement cancérigène. C'est plusieurs agences qui le disent, même si toutes ne sont pas alignées là-dessus à ce stade.
La plupart
je suis d'accord
ne
avec
disent
vous,
pas
mais
ça.
Aux États-Unis,
disent qu'il y a
c'est
pas
le cas.
La plupart,
et le deuxième élément, c'est que c'est très négatif aussi pour la biodiversité, puisqu'en gros, ça tue tout ce qui pousse, à part la plante que l'on souhaite faire pousser. Nous, notre position, elle est très simple là-dessus. C'est un point d'équilibre entre un cap très clair, il faut en sortir, et le président du syndicat des jeunes agriculteurs, qui est Jérémy De Serle, qui est sur la liste, en quatrième position sur la liste Renaissance, dit très clairement aussi, le cap il est clair, il faut en sortir. La question c'est les moyens. Et c'est là où nous, on se caractérise par une écologie de solution, et pas par une écologie dogmatique du yaka faucon. Quand Yannick Jadot dit il faut en sortir maintenant, ben, ça veut dire qu'il n'est jamais allé sur une exploitation agricole qui utilise du glyphosate et qui a besoin d'un an, 2 ans, 3 ans parfois.
Donc vous dites 2021, vous.
Changer les pratiques, avoir des alternatives. Parce qu'aujourd'hui,
mais
l'alternative chimique...
Mais même un an, 2 ans, 3 ans, comme vous dites, ça paraît extrêmement ambitieux, ben, extrêmement court.
C'est pour ça qu'en Europe, c'est 5 ans.
Parfois impossible.
Non. Alors donc ça, c'était objectivé. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui regarde les choses de la manière la plus objective possible. C'est ce que je génère, la plus équilibrée possible. L'institution, l'instance qui a objectivé ce débat, c'est l'INRA, le Centre de Recherche Français sur l'Agriculture, qui a dit dans 80% des cas en France, c'est possible d'en sortir en 3 ans. Donc faisons-le. Puis dans 20%, objectivement, c'est plus compliqué parce que les alternatives n'existent pas. Et donc, nous, on n'est pas dans le yaka faucon maintenant et on met tout, on renverse la table. Ce n'est pas du tout notre philosophie. Mais par contre, on n'est pas du tout non plus dans une logique qui serait très conservatrice, consistant à dire statu quo, on ne change rien, alors qu'il y a un risque notoire sur ce produit. Donc, un chemin très clair, un cap très clair, mais du pragmatisme et surtout, on offre des solutions aux agriculteurs. Parce que l'écologie dans les plateaux télé, ça offre pas spécialement des solutions. Donc, nous, on est sur une écologie des solutions. Typiquement, on a sur notre liste Jérémy Decerle qui n'utilise pas de glyphosate, éleveur. On a aussi sur notre liste quelqu'un qui fait du vin, du Pic Saint-Loup, très bon par ailleurs, qui n'utilise pas non plus de glyphosate. Donc ça veut dire que, avec modération, vous avez raison
vous
de le préciser.
Qui utilise le glyphosate, donc, parce que ça continue à être utilisé quand même.
On en connaît qui ne l'utilise pas, oui. Et on en connaît qui l'utilise. Voilà. Et avec ceux qui l'utilisent, on utilise le savoir-faire de ceux qui ne l'utilisent pas pour dire, ben voilà, les solutions, elles sont possibles progressivement. C'est une position très responsable vis-à-vis des consommateurs qui répond aux attentes de la société, mais aussi très responsable vis-à-vis des agriculteurs, parce que nous, on est pour que la France continue à être une puissance agricole, évidemment.
Justement, la France puissance agricole, en Europe, comment est-ce que vous faites cette réforme de la politique agricole commune? Elle doit être rediscutée pour l'après 2020. Dans votre programme, vous notez par exemple des aides plus ciblées pour les petites exploitations, des très grandes fermes ou des aides au bio. Mais finalement, ça ne vous différencie pas beaucoup de ce que peuvent proposer d'autres listes?
Ce n'est pas un concours de différenciation, la démocratie, c'est un concours d'efficacité. Donc la question, c'est qui a le projet le plus pertinent, évidemment, qui répond aux attentes des Français, mais aussi le plus efficace, capable de se déployer derrière au Parlement européen. Et nous serons au cœur du futur groupe central au Parlement européen, sans lequel aucune coalition majoritaire n'est possible. Donc on aura un poids très considérable. Donc si c'est nous, c'est la France et le président de la République qui aura un poids considérable en Europe. Donc la réforme de la PAC que nous défendons, on aura la possibilité de la mettre en œuvre. Elle se structure autour de 3 priorités, je vais aller très vite. Première priorité, les revenus. Revenus pour les agriculteurs. Pourquoi ? Un seul chiffre, qui moi me fait froid dans le dos. 1 agriculteur sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté.
Donc garantir les revenus.
Donc les revenus.
Donc
parce
on
que
augmente
c'est
le budget de la PAC ?
Non, on modifie les aides précisément pour les concentrer sur les exploitations petites et moyennes. Et donc, on sort d'une logique où plus on a d'hectares, plus on est gros, plus on est productiviste intensif, plus on a d'aide. Je ne souhaite pas que mes impôts financent ce système. Donc, on est pour réorienter cela. Deuxième priorité, la protection par rapport à la concurrence déloyale. C'est pour ça que la France refuse de signer un accord commercial avec le Mercosur, parce que ça consisterait à importer des pratiques agricoles d'Amérique latine que l'on condamne chez nous. On marcherait sur la tête, donc on est contre. Troisième angle du triangle, c'est la transition écologique et la transition agricole. Parce que on veut plus de qualité, plus de circuits courts, plus de bio, etc., etc. Et moins de pesticides, on vient d'en parler à travers l'exemple du glyphosate. Plus de revenus, plus de protection contre les concurrences déloyales, plus de transition agricole. C'est le triangle, notre priorité de réforme de la PAC, à budget, puisque vous évoquez la question du budget, à budget constant. Nous ne sommes pas favorables et nous nous opposerons à la baisse du budget de la PAC en Europe.
Ça suffit pour éviter le choc climatique inévitable? Il y a un rapport sénatorial cette semaine qui a parlé de ce choc climatique inévitable parce qu'on n'était pas rentré, on n'avait pas encore pris en compte la révolution nécessaire à faire. Est-ce que cette réforme de la PAC, ça suffit?
C'est un élément. On a, nous, une stratégie globale pour lutter contre le dérèglement climatique. Et je dirais que c'est ce qui me fait lever le matin. On a parlé des questions de démocratie et de lutte contre l'extrême droite et l'internationale de l'extrême droite qui est en train de se forger devant nous. Ça, c'est ce qui me fait lever aussi le matin. Mais la deuxième chose, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Parce que je ne peux pas imaginer laisser un monde à mes enfants à 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés de réchauffement climatique parce que c'est le chaos. Et donc, c'est pour ça que la question de l'urgence climatique, c'est le premier axe du projet de notre liste. Et alors, on défend plein de propositions. La réforme de la PAC en est une. une banque pour le climat.
On va en reparler. Juste, il y en a une, c'est la taxation du kérosène.
Oui.
Un certain nombre de vos amis, notamment en France, disent « c'est formidable, et pourquoi on ne le fait pas d'abord en France, une taxe sur les vols intérieurs ?» Nicolas Hulot dit ça, Mathieu Orphelin, un député qui était de La République En Marche, qui ne l'est plus, dit ça également. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas ça aujourd'hui au président de la République qui soutient votre liste?
Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Chacun comprend que le trafic aérien, c'est d'abord continental. Les Paris-Berlin, les Paris-Londres, les Paris-Madrid, etc., etc., ou les Bordeaux-Milan, etc. Donc, tout ça, ça doit se gérer d'abord au niveau européen.
C'est pour on peut montrer l'exemple.
C'est ce que j'allais dire. Je ne l'exclus pas, je vais y venir. Premier élément, c'est ça. C'est ça qu'on met dans notre projet. Et moi, je suis favorable à ce qu'on se donne 12 à 18 mois pour voir si ce chemin-là, il est possible à 27. 28, puis si les Britanniques s'en vont, 27. S'il n'est pas possible, et on le saura assez vite, quelques mois, alors je suis favorable, et je rejoins votre propos, à ce qu'on le fasse dans le cadre d'une coopération renforcée entre les pays européens qu'ils souhaitent. La Suède, les Pays-Bas, pas pour leurs vols domestiques, puisqu'ils en ont peu, mais pour les vols européens, avec l'Allemagne, etc. Qu'on soit 7-8 pays européens, de façon à ce qu'on puisse mettre en place cette taxe de manière harmonisée.
Donc ça, c'est le bâton. Vous dites, si on n'arrive pas à se mettre d'accord,
donc moi,
fera.
Je pense, ma position, et vous savez, il y a la semaine prochaine un conseil de défense écologique qui sera tenu et présidé par le président de la République avec le Premier ministre. Ça fait partie des choses qui sont en discussion aujourd'hui en arbitrage pour qu'il puisse y avoir des annonces la semaine prochaine disant, évidemment, on défend une taxation du kérosène en Europe, parce que je le rappelle, c'est même absurde que le carburant des automobiles soit taxé et le kérosène des avions, qui est encore plus polluant, ne le soit pas. C'est-à-dire, on marche sur la tête. Donc évidemment, il faut aller dans cette direction, d'abord au niveau européen, et si ce n'est pas possible en un an, alors on le décide au niveau national dans le cadre d'une coopération renforcée avec d'autres pays européens pour avoir le plus grand impact possible.
Dans votre programme, vous évoquez également la création d'une banque européenne pour le climat avec des objectifs de financement, d'investissement assez considérables. On parle juste de 1000 milliards d'euros. Comment est-ce que vous pensez avoir la moindre chance de convaincre des pays qui sont très conservateurs sur le plan financier ou budgétaire, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme certains pays d'Europe du Nord, la Finlande ou d'autres, d'accepter cette idée-là?
Je vous rassure, M. Barrès, ce n'est pas 1000 milliards publics.
On avait compris.
C'est 1000 milliards de financement dans la transition écologique, dans l'ensemble de l'économie. Ce n'est pas un chiffre qu'on a sorti de notre chapeau. C'est 200, la Commission européenne a analysé ce qui manquait aujourd'hui dans la structure d'investissement de l'économie européenne, donc les entreprises, les États, les collectivités locales, les ménages, tout le monde. Et il manque 200 milliards d'euros par an d'investissement vert pour respecter l'accord de Paris dans les énergies, les transports, l'isolation des bâtiments, la transition agricole, on en parlait à l'instant. 200 milliards par an, fois 5 ans, ça fait 1000 milliards. Donc nous, notre boussole, c'est on doit réussir à mobiliser dans les 5 années qui viennent 1000 milliards d'euros de plus pour la transition de l'économie européenne avec un objectif, respecter l'accord de Paris, aller vers la neutralité carbone pour éviter le chaos climatique à nos enfants. C'est notre priorité numéro 1 et j'en suis très fier. Et donc, comment on va faire? Mais on ne va pas le faire justement. Ça, c'est la version Mélenchon, on va dire 1000 milliards d'euros publics. Ce n'est pas du tout notre philosophie. Nous, on est pour le respect des engagements financiers, notamment ce qu'on appelle le pacte de stabilité, le fameux 3%, parce que nous sommes pour le sérieux budgétaire, parce que je ne veux pas non plus léguer de la dette financière à mes enfants, mais je suis aussi pour le sérieux climatique. C'est ce que moi j'appelle la double dette. Nous voulons réduire cette double dette, la dette financière et la dette climatique, et ça me semble être la position la plus équilibrée, la plus juste, ni que le climat, ni que la finance. Eh bien, comment on va faire? On va justement créer un nouvel outil qui va être en lien étroit avec la Banque européenne d'investissement,
qui fait déjà un quart de son business sur le climat.
Un quart. Donc, que fait l'autre trois quarts, Monsieur Barré?
D'accord.
C'est ça le problème.
Justement,
c'est ça le problème. C'est un quart de vert, trois quarts de marron anti-climat. C'est pas exactement.
C'est pas forcément anti-climat.
C'est pas exactement l'alignement. Vous savez, quand vous financez une autoroute en Allemagne, vous n'êtes pas en train de lutter contre le dérèglement climatique. Je connais très très bien le portefeuille d'investissement de la BEI. On pourrait faire toute l'émission là-dessus. Donc, concrètement, une banque pour le climat qui transforme la BEI et qui fait qu'on est capable de mobiliser plusieurs dizaines de milliards d'euros de plus publics. Ensuite, l'alignement du budget européen sur les 2 degrés. Quand on parle des fonds structurels, Les fonds structurels, c'est notre argent, français, allemand, néerlandais, ça, qui est mis dans un pot commun européen, qui ensuite finance des infrastructures, notamment dans les pays de l'Est. Ben, nous sommes favorables à ce que ces fonds structurels s'alignent sur l'accord de Paris. Parce que sinon, on a d'un côté un objectif de neutralité carbone, et de l'autre côté, on dit, ah ben, on va continuer à financer des infrastructures qui ont une durée de vie de 20 ans, 30 ans, 40
ans. Donc, en gros, on ne les verse pas à certains pays sur un certain type de projet. C'est ça.
Ben, on travaille avec eux pour financer, par exemple, les renouvelables, les transports propres, et pas les autoroutes et le charbon, bien évidemment. Et donc ça, quand vous additionnez toutes ces couches-là, vous avez un chemin qui permet d'arriver aux 1 000 milliards d'investissements sur les 5 ans. Et c'est une boussole fondamentale, c'est le cœur de notre engagement pour le climat aujourd'hui.
Pascal Canfin, numéro 2 sur la liste Renaissance, est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant pour continuer, évidemment, à détailler le projet européen.
10h, 11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.
Pascal Canfin, numéro 2 sur la liste Renaissance, est l'invité du Grand Rendez-vous. Pascal Canfin, un certain nombre de têtes de liste concurrentes, parfois amies, disent qu'il n'y a pas d'autre Europe possible, et donc pas d'Europe écologique possible, sans sortir des traités actuels. Votre ancien colistier, Yannick Jadot, qui aujourd'hui porte la liste Europe Écologie Les Verts, propose même un traité environnemental. Vous vous dites, vous nous avez dit il y a quelques secondes, on peut continuer à faire une Europe de l'écologie avec les traités actuels.
Bien sûr, Hélène Jouan. Est-ce qu'on peut réformer la PAC avec les traités actuels? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau traité pour faire l'Airbus de la batterie électrique qui permet de développer une nouvelle filière industrielle en France et en Allemagne avec le soutien de la Commission européenne, créer des milliers d'emplois et développer les voitures propres? Non, on n'a pas besoin d'un nouveau traité. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau traité pour mettre dans les accords commerciaux des clauses climatiques en disant, en gros, je ne signe pas de nouvel accord commercial avec un pays qui ne respecte pas l'accord de Paris.
Ce que voulait faire Emmanuel Macron et ce qu'on voit, il a échoué.
Je finis sur les traités, ça, vous me lancez sur autre chose, je reviendrai si vous voulez là-dessus, bien évidemment. Donc, on n'a pas besoin de nouveau traité. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau traité pour faire respecter la directive sur la pollution de l'air, pour durcir les normes sur les camions qui circulent sur nos routes? Non. Donc, tout ce qu'on peut faire à traité constant, on n'a pas besoin d'un nouveau traité pour faire la banque pour le climat, etc. Donc faisons tout ce qu'on peut faire à traité constant. On fera peut-être 80% du chemin. Et puis dans 5 ans, dans 10 ans, quand on aura fait tout ça, eh ben, on se posera éventuellement, peut-être, si c'est nécessaire, la question d'un nouveau traité. Mais moi, je suis pragmatique parce que je veux une écologie efficace et utile. Et
c'est pour ça que je suis sur cette liste. Respecter les 3% par exemple de déficit, la règle des 3%, ça n'enferme pas dans un certain type d'économie?
Et pas du tout. Regardez la Suède. La Suède est aujourd'hui, vous savez, les ONG environnementales ont classé à Bruxelles, ont classé les pays, par pays européens, par ordre d'ambition dans l'action climatique. La France est troisième. Troisième, c'est pas 25e, 26e, 27e, 28e, on est troisième. On n'est pas premier et il faut toujours faire plus et mieux. Et moi, je me bats pour ça, bien évidemment, parce qu'on est aucun pays au monde n'en fait assez. Mais néanmoins, on est troisième. Qui est le premier? La Suède. La Suède, elle est en train de se mettre progressivement vers des objectifs climat très forts et de les respecter. Et elle respecte parfaitement son déficit budgétaire.
Sortons les investissements écologiques de la règle de ces 3%
du
déficit.
Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une mesure totalement franco-française. Quand un Français porte ça, un Suédois, un Danois, un Néerlandais, un Espagnol et même un Grec, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, mais attendez, vous êtes un des très rares pays, c'est plus vrai maintenant d'ailleurs, je le note au passage, pendant longtemps à ne pas avoir respecté la règle des 3% quand tous les autres...
Mais finalement c'est cohérent avec votre discours sur la double dette.
Mais justement, on peut le faire, on peut avoir le sérieux budgétaire, parce que je ne veux pas laisser de la dette financière à mes enfants. Et on voit en Italie, avec Salvini aujourd'hui, l'allié de Marine Le Pen, qu'on est sur le point de refaire une crise financière en Italie, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire « il n'y a qu'à Faucon, ce n'est pas un problème, la dette financière, le respect du budget, on s'en fout ». Ça va finir par leur retomber sur la tête. Et le sérieux climatique, on peut faire les deux. C'est le seul chemin qui fait qu'on ne choisit pas entre deux mots. On additionne les énergies pour faire les deux. Et il y a quelques pays qui nous montrent le chemin pour y arriver. La Suède en fait partie. Et donc, engageons-nous dans cette voie.
L'une des grosses difficultés de l'Europe, et c'est peut-être pour ça que la participation aux élections européennes est faible, c'est qu'elle apparaît comme impuissante. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, pour que l'Europe cesse de subir des décisions qui sont prises à des milliers de kilomètres de chez nous? Je pense, par exemple, à la décision du président Trump de nous empêcher de faire du commerce avec l'Iran. L'Europe est totalement impuissante face à ça, et en gros, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a rien à faire.
Alors, Plusieurs choses. D'abord, nous sommes favorables à ce que l'euro devienne une vraie monnaie internationale, qui est l'équivalent du dollar, pour sortir du monopole du dollar, qui donne un pouvoir démesuré aux États-Unis.
Ça ne se décrète pas, ça.
Ça ne se décrète pas, ça se travaille politiquement. Et ça se travaille politiquement d'où ? Depuis le Conseil européen, ça c'est le rôle d'Emmanuel Macron, et puis depuis le Parlement européen, ça ce sera le nôtre. Donc, on va travailler dans cette direction. Et c'est un choix politique d'assumer que l'euro devient une monnaie internationale. Mais pour ça, encore faut-il avoir l'euro. Or, quand je prends les propositions de la liste qui peut nous empêcher d'être premier aujourd'hui, c'est-à-dire celle du Rassemblement national, elle, pendant longtemps, elle a dit...
Elle a changé d'avis, et elle l'assume.
Exactement, elle l'assume. Sauf qu'elle n'a pas changé ses propositions. Moi, je trouve ça un mensonge et honté de dire en 2017, phrase de Marine Le Pen dans le débat avec Emmanuel Macron pendant la campagne, 80% de mes propositions dépendent du fait qu'on sorte de l'euro. Aujourd'hui, exactement les mêmes propositions, mais on ne sort plus de l'euro. Tout simplement parce qu'elle a compris que, évidemment, les Français ne voulaient pas sortir de l'euro, comme aucun pays européen, d'ailleurs, ne veut en sortir, parce que c'est un élément de puissance dans le monde. Mais elle a gardé ses propositions. Donc, c'est juste un mensonge. C'est un mensonge, ce qu'elle raconte. Sur l'euro, donc
mais
ça, c'est notre
volonté.
Deuxième
le
élément.
Dollar, comment deuxième on fait avec les Iran, si on veut continuer à faire du commerce avec eux, alors que Trump
mais
nous en empêche.
On assume le fait de la puissance internationale de l'euro. Et à un moment donné, on fait ce qu'on appelle, en termes techniques, excusez-moi, de l'extraterritorialité. Et pour faire de l'extraterritorialité, c'est-à-dire imposer des normes européennes au reste du monde, et on peut le faire. On peut le faire parce qu'on est le premier marché du monde. Nous sommes la première puissance commerciale au monde en Europe.
L'Europe alors pourquoi est
la première...
on ne le fait pas ?
Parce que justement, la volonté politique jusqu'à présent n'est pas encore majoritaire. C'est le projet que nous défendons. On le défend avec d'autres, on le défend avec les Espagnols, avec les Portugais, avec d'autres pays européens. Mais pour l'instant, au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore eu de majorité. La France n'a pas encore eu, Emmanuel Macron n'a pas encore eu de majorité pour faire ça. Mais si on gagne cette élection... Comme on pèsera énormément, on pourra peut-être y revenir sur la géographie du Parlement européen, même si ça ne passionne pas forcément les Français, mais on pèsera énormément au cœur du Parlement européen, on aura la possibilité de changer la donne. Et là, on voit bien que tout d'un coup, on sera en capacité de créer du vrai rapport de force avec les amis de Mme Le Pen, avec Donald Trump, avec Poutine et évidemment avec la Chine. Et quand, moi, j'ai un des éléments qui m'a fait m'engager sur cette liste, ça peut vous sembler bizarre, mais c'est quand Emmanuel Macron a reçu le président chinois. Il ne l'a pas reçu tout seul. Comme le font d'habitude les chefs d'État européens, parce que le grand plaisir de la Chine, c'est évidemment de diviser l'Europe. Il a reçu à Paris le président chinois avec Angela Merkel, et avec le président de la Commission européenne, unis pour être plus fort face à la Chine, face aux États-Unis, face à la Russie. C'est ça le cœur de ce que l'on défend.
Je reviens un instant, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, sur les accords commerciaux. Vous disiez, la France, l'Europe aujourd'hui, ne doit plus s'engager dans des accords commerciaux qui ne respectent pas un certain nombre de règles. On a vu qu'Emmanuel Macron avait essayé de s'opposer à des discussions et à la signature d'un accord, notamment avec les États-Unis, sous prétexte que les États-Unis ne respectent pas l'accord de Paris. Et on a vu à quel point il était isolé.
Il y a un mois, le président de la République a effectivement pris une position que je trouve historique. C'est le premier chef d'État en Europe, et peut-être au monde, je n'ai pas vérifié, donc on va dire en Europe, à dire « je ne veux pas signer un accord de libre-échange, un accord commercial avec un pays qui veut sortir de l'accord de Paris ». Ça veut dire qu'il a mis le climat devant le libre-échange et le commerce international.
Mais les autres Européens,
Européens n'ont pas suivi. Donc qui sont les autres Européens? Où sont les Verts suédois qui sont au gouvernement? Où étaient-ils cette nuit-là quand Emmanuel Macron a dit « moi je ne veux pas signer » Où étaient les socialistes espagnols, les sociodémocrates suédois? Où étaient-ils? Où étaient les alliés de Marine Le Pen? Où étaient les alliés de Marine Le Pen, Salvini, qui, soi-disant, veut remettre en cause la mondialisation, le libre-échange, etc. Et c'est lui qui a signé l'accord de libre-échange ou l'ouverture de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc tout ça, c'est du pipeau. Excusez-moi, le seul qui a mis ses actes...
C'est du pipeau, mais en attendant, lui, il le fait, mais ça, les autres Européens
et
ne
donc,
le font pas.
La semaine d'après,
donc, il n'est pas efficace.
Mais oui, mais si vous faites quelque chose et les autres ne vous suivent pas, qui est responsable? D'accord, ce sont les autres ou c'est vous? C'est les autres. Donc il l'a fait.
C'est le fait que vous ne trouviez pas d'accord
ça, c'est
avec
le premier
autres.
Acte. C'est le premier acte. Il l'a fait. Et s'il ne l'avait pas fait, vous seriez les premiers à me poser la question en disant « il avait dit qu'il le ferait et il ne l'a pas fait ». Il l'avait dit et il l'a fait. Et c'est le premier président à l'avoir fait, bravo à lui. Maintenant, évidemment, ça ne suffit pas. Parce que l'idée, c'est d'avoir une majorité. Mmh. C'est pour ça que moi, je suis allé juste après à la direction générale du commerce de la Commission européenne, DG Trade, comme on dit dans le jargon. C'est le cœur de la volonté de libre-échangisme européen. Eh bien, ils sont tombés de leur chaise. ils sont tombés de leur chaise et ils ne sont toujours pas remontés, parce que jamais ils n'imaginaient qu'un président de la République française ou un autre chef d'État, il ne s'agit pas de faire, il n'y a que la France qui compte évidemment, mais il se trouve que c'est la France qui l'a fait, accepterait de prendre ce risque diplomatique et de dire « moi je m'oppose à Donald Trump au nom du climat ».
C'est oublié maintenant. Quoi.
Non, c'est pas oublié, parce que justement, la négociation maintenant, elle est en train d'avoir lieu sur les accords commerciaux. Je peux vous dire que ce que la France défend en ce moment même dans les négociations commerciales avec d'autres pays, c'est de dire, là encore, excusez-moi de faire un peu technique, mais c'est important, dans les accords commerciaux, les clauses sur le climat et sur le développement durable doivent être des causes fondamentales, obligatoires, qui fait que si le pays ne joue pas le jeu de la lutte contre le dérèglement climatique, alors l'accord commercial tombe. Et je suis certain, parce que j'ai fait beaucoup de négociations climatiques dans ma vie, et j'ai été parlementaire européen, j'ai suivi les accords commerciaux. Pendant des années, c'était deux univers qui s'opposaient. Aujourd'hui, grâce notamment à l'action de la France, c'est en train de se réunir et je suis certain que dans les deux ans qui viennent, on va réussir enfin à avoir un nouvel accord sur ce sujet et la France aura été le précurseur. Et je reviendrai vous voir et vous me direz, c'est vrai, Emmanuel Macron, à ce moment-là, a posé un acte décisif.
Pascal Canfin, numéro 2 sur la liste Renaissance, est l'invité du Grand Rendez-vous. Dernière partie de l'émission, restez avec nous, on se retrouve tout de suite.
10h, 11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Pascal Canfin, numéro 2 sur la liste Renaissance, est l'invité du Grand Rendez-vous. Dernière semaine de campagne, Pascal Canfin. On l'a évoqué tout à l'heure, la dynamique semble aujourd'hui du côté plutôt de la liste du Rassemblement National. Vous êtes au coude à coude dans les sondages, mais il semble que l'écart se creuse un petit peu. Qu'est-ce que vous attendez de cette dernière semaine, de l'implication notamment du président de la République? Est-ce qu'il doit plus en faire encore?
Le président de la République sera forcément amené à s'exprimer dans cette dernière semaine, selon des modalités qui lui appartiennent. Il y a d'ores
et
déjà...
Vous n'avez pas idée aujourd'hui ?
J'ai pas idée aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on fait un live Facebook, la liste Renaissance. J'invite les auditeurs d'ailleurs à aller sur Facebook après cette émission pour poser toutes les questions qu'ils n'auront pas pu poser, qu'ils ont en tête après m'avoir entendu. Moi, j'aurai un direct de 13h à 13h20. Ils pourront poser davantage de questions, mais toute la journée, et on finira par le Premier ministre. La semaine prochaine, il y a trois débats à la télévision. Et nous allons, dès aujourd'hui, envoyer un courrier aux trois chaînes qui organisent ces trois débats pour leur demander officiellement de mettre en place un dispositif anti-mensonge, un dispositif anti-fake news, en direct. Parce que la démocratie, c'est le débat, mais c'est le débat sur des opinions, certes, mais aussi sur des faits qui, eux, sont incontestables. Sinon, le débat, il est tué. La démocratie, elle souffre du fait que certains candidats, particulièrement ceux du Front National ou du Rassemblement National, peuvent dire absolument n'importe quoi dans un débat. Vous avez deux jours après un démenti ou ce qu'on appelle le fact-checking dans la presse, bon, que personne ne lit. Nous sommes favorables et nous demandons officiellement aux chaînes pour avoir le meilleur débat démocratique possible, de mettre en place pour ces trois débats un dispositif anti-fake news, anti-mensonge en direct. C'est-à-dire
qui vaudra évidemment pour vous aussi et pour tous les candidats.
Bien évidemment. Une cellule de 3-4 journalistes qui, en live, pendant le débat, vérifie si le chiffre qui vient de sortir, l'affirmation qui vient de sortir est vraie ou fausse. S'il y a un doute, disent rien. Si c'est objectivement, factuellement, complètement faux, et c'est quand même une grande spécialité du Front National, alors nous suggérons un bandeau en direct pendant l'émission en disant voilà, ce que vient de dire X est faux, la preuve, toc toc, avec la source. Je peux vous dire que ça permettra d'améliorer la qualité du débat démocratique. Et donc c'est une demande officielle que la liste Renaissance va formuler aux chaînes aujourd'hui, et on le fait pour la première fois par ma voix ce matin.
Vous avez pris contact avec d'autres listes éventuellement pour porter cette revendication ?
On le fera une fois que nous, on aura déposé cette proposition, et ensuite, si les autres listes soutiennent cette idée, je pense que tout le monde peut le soutenir, peut-être pas le Rassemblement National évidemment, et bien alors, on aura fait progresser collectivement la qualité de notre démocratie.
Nicolas Barré.
Tous les peuples européens s'interrogent sur leur avenir, sur l'avenir surtout du système social européen. Est-ce qu'il est soutenable ? Ça a pu nourrir aussi des mouvements de type gilets jaunes chez nous, de défiance à l'égard des corps intermédiaires, à l'égard des élus, des syndicats. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas eu tendance depuis le début de son mandat, au fond, à sous-estimer tout cela à se couper peut-être trop de ses corps intermédiaires et des syndicats et à ne pas s'appuyer suffisamment sur eux ?
Vous savez, on lui a dit ça. Et en même temps, une des premières attentes du mouvement des Gilets jaunes au début, puisque là, c'est en train juste de devenir un mouvement violent et ultra minoritaire. Mais au début, il s'est passé quelque chose dans la société française. Et quelle était une des demandes premières ? C'était justement la réappropriation d'une forme de démocratie directe, qui est précisément le contraire de remettre les corps intermédiaires au centre. Et donc, il y a des attentes contradictoires dans la société. Et je ne pense pas qu'il faille choisir entre l'une ou l'autre. Par exemple, le président de la République va, et il a déjà annoncé avec le Premier ministre, a mis en place un certain nombre de dispositions pour remettre au centre de la discussion les partenaires sociaux. Et c'était une demande forte de la CFDT,
mais
par exemple.
Mais il fallait qu'il corrige le tir.
Elle est en train d'être faite.
Il a commis une erreur.
Disons que, c'est pas qu'il a commis une erreur, c'est que je pense qu'il voulait aller très vite parce qu'il avait la légitimité forte de son élection. Il s'est dit, je vais avancer. C'est ce que les Français attendent. Et les Français attendent ça aussi. Parce que si on leur dit, alors on commence par 2 ans de dialogue et rendez-vous dans 2 ans, vous seriez le premier à dire, oui, mais il y a un petit peu urgence pour réformer, donc il faut aller vite. Donc c'est toujours le bon équilibre entre la concertation avec les syndicats et l'action. Et puis il y a aussi le Conseil de participation citoyenne qui a été annoncé lors du grand débat il y a quelques semaines par le président de la République, qui va commencer à se réunir sur la transition écologique pour décider autrement. Parce qu'au fond, la démocratie française, et c'est vrai sous Emmanuel Macron, c'était vrai sous les présidents de la République précédents, c'est pas un sujet partisan, elle souffre aujourd'hui d'une absence d'implication directe des citoyens. Et pour la première fois,
le président de la République... Ça ne peut pas ralentir les choses ?
Au contraire, je pense que... Alors, c'est le risque. Et c'est pour ça que je répondais à l'instant qu'il faut toujours avoir une vision équilibrée. Néanmoins, nous, on va faire le pari que ça va accélérer les choses. Si je peux prendre un exemple. Sur la transition écologique, il y a un sujet qui n'avance pas depuis... des décennies, c'est l'isolation des bâtiments, de nos maisons, des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux, des entreprises. Nicolas Sarkozy avait fixé un objectif, le Grenelle de l'environnement, il y a 10 ans. 500 000 bâtiments isolés par an. Échec. François Hollande avait fait la même chose. Échec. Emmanuel Macron a refait le même objectif. Échec. Ça veut bien dire que ce n'est pas une question partisane, c'est une question de méthode pour transformer la façon dont on prend les
donc
décisions.
Donc si les citoyens s'en
et
emparent...
donc on va le faire avec les citoyens qui vont dire, ben voilà, dans une bon courage aujourd'hui, dans une copropriété privée, pour réussir à avoir la majorité au syndic pour faire des travaux d'isolation profonde de votre logement. C'est impossible, c'est trop compliqué. Donc il faut partir du terrain, du vécu, de la réalité des Français, et changer ensuite les règles du jeu.
Pascal Canfin, le Brexit n'ayant toujours pas eu lieu, les Britanniques vont élire des députés.
Incroyable.
Finalement. Mais c'est aussi la démocratie.
Absolument, c'est la démocratie.
Députés qui vont peser sur le choix des votes au Parlement européen. Comment est-ce que vous allez gérer cette situation que vous qualifiez d'incroyable ?
C'est incroyable que 2 ans après avoir décidé d'en sortir, ils n'en soient toujours pas sortis. C'est d'ailleurs, je pense là aussi, le président de la République qui avait la bonne position au fameux Conseil européen avec les chefs d'État il y a un mois à peu près, où une grande partie des Européens étaient favorables à une durée très très longue. Et le président de la République, avec quelques autres, pas tout seul contrairement à ce qu'on a pu faire croire, était sur une position inverse en disant il faut qu'ils en sortent. Si c'est leur choix, il faut qu'ils en sortent. Ils ne peuvent pas être un pied dedans et un pied dehors.
Ce sera finalement le 31 octobre, mais en attendant, des élections.
Exactement. Donc situation... assez abracadabrantesque, qu'on va devoir gérer, tant bien que mal. Je peux vous dire que ça me fait plaisir, parce que ça n'a pas de sens politique. Ça n'a aucun sens politique que les Britanniques élisent des députés européens qui vont partir dans 6 mois, mais qui vont, au moment où on va négocier l'accord majoritaire, qui vont peser.
Mais leur intention est très claire, c'est celle de nuire, justement, ils ne le cachent pas.
Exactement, c'est pour ça que je vous dis que c'est absurde.
Et donc, comment est-ce que vous pouvez, est-ce que vous aurez les moyens de les empêcher de nuire ?
On va tout faire. D'abord, ceux qui nous donnent les moyens de notre force, c'est les Français, et c'est pour ça aussi qu'on doit sortir premier. Parce que là, on parle de question d'élection des députés européens, mais en amont, il y a le Brexit. Le Brexit, c'est une catastrophe politique, c'est-à-dire qui a complètement anéanti, ou qui est en train d'anéantir la démocratie parlementaire britannique, une des plus vieilles au monde. Donc cette catastrophe, je rappelle qu'il y a une personne qui s'en est réjouie, c'est Marine Le Pen, et qu'au fond, même si elle ne le dit plus aujourd'hui, parce que c'est tellement impopulaire qu'elle ne va pas le dire, mais la réalité de son projet, c'est la sortie de la France de l'Union européenne, parce que c'est... ce qu'elle disait elle-même. C'est la condition pour qu'elle puisse mettre en œuvre son programme sur l'immigration, sur d'autres sujets. Donc, c'est ça, le Frexit, c'est la conséquence logique du projet de Marine Le Pen. Or, le Brexit, c'est le chaos politique au Royaume-Uni. Ça nous amène à une situation absurde, mais c'est aussi le chaos économique. Monsieur Barret, vous êtes au journaliste des Échos, vous comprendrez, je pense, attaché à ce que je vais dire. Le taux d'épargne est britannique. Le taux d'épargne est britannique, il est tombé à 4%. Ça veut dire que quand un ménage britannique aujourd'hui a 1000 livres, on va dire 1000 euros pour simplifier, de revenus, il n'a que 40 euros d'épargne. C'est-à-dire qu'il n'a plus de coussin de sécurité. Le taux d'épargne s'est effondré. C'est-à-dire que si l'économie britannique ne s'est pas encore effondrée après le Brexit, même si le système politique, lui, s'est effondré, je suis absolument persuadé, parce qu'ils ont mangé en quelque sorte le plein blanc, ils ont réduit le coussin, les ménages britanniques ont réduit le coussin de sécurité à zéro. Et donc si ça continue comme ça, dans un an, c'est la catastrophe économique au Royaume-Uni.
Est-ce que cette affaire du Brexit, finalement, ça plaide pas pour une Europe plus ramassée, peut-être autour de la zone euro, avec un Parlement de la zone euro ? C'est quoi votre vision là-dessus ? Ou même un groupe de pays plus, encore plus étroit que ça ?
Oui, évidemment, un budget de la zone euro. Nous, nous sommes favorables à ce que l'on fasse de l'euro, qui est un extraordinaire outil économique, hein, qui nous fait vivre dans la mondialisation, face aux Chinois, face aux Américains, etc. C'est déjà une première chose. Hein, sinon, on serait soumis en permanence à la pression des marchés financiers. On ne l'est plus, tant mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, on est favorable à un budget de la zone euro qui donne une capacité d'investissement commune aux pays de la zone. On est favorable à ce que le Parlement européen se réunisse aussi en configuration zone euro, parce que c'est un peu absurde que des décisions qui nous concernent uniquement, nous, pays membres de la zone euro, soient prises avec le vote, l'avis, pas toujours bienveillant, de pays qui, eux, ne sont pas dans la zone euro. Donc il faut faire cette modification institutionnelle qui est portée par la France depuis 2 ans.
Et est-ce qu'il ne faut pas dire stop à tout élargissement, vu ce qui s'est passé après le Brexit ?
Clairement, aujourd'hui, ça n'est pas du tout d'actualité. En revanche, il faut effectivement avoir probablement une Europe qui soit à plusieurs vitesses. Et c'est vrai parce qu'on n'avance pas à 27 de la même façon. Ce n'est pas un dogme ou une idéologie, c'est juste du pragmatisme.
Nicolas Hulot ne sait toujours pas pour qui voter. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire qui le convainque de voter pour vous ?
Je ne sais pas, ce que Nicolas Hulot, il a des amis sur plusieurs listes. Et donc je pense qu'à la fin, il ne prendra pas forcément publiquement position. Par contre, moi, ce que j'attends de Nicolas Hulot, et c'est d'ailleurs c'est ce qu'il a fait ces dernières semaines, c'est que quand il dit que le gouvernement n'en fait pas assez, qu'il le dise, et moi je le dis aussi, mais quand le gouvernement fait ce que lui-même aurait voulu que le gouvernement fasse, qu'il le dise.
Il le dit
quand
pas
on a
assez.
Créé, non, justement, il le dit. Quand on a créé le Conseil de défense écologique, qui consiste, et qui va se réunir pour la première fois la semaine prochaine, qui consiste à faire passer le gouvernement en mode commando avec tous les principaux ministres, notamment les ministres de l'économie à Bercy, pour aller accélérer la transition écologique. Que dit Nicolas Hulot ? Il dit, c'est très bien, j'aurais aimé l'avoir, j'aurais aimé le faire, bravo au gouvernement de l'avoir fait. Donc voilà, je pense que la sagesse de Nicolas Hulot, c'est pas de prendre des positions politiques, c'est d'éclairer le débat en disant ça va pas assez loin, ça avance, moi c'est ce que j'attends de lui et je pense qu'il le fera très bien.
Merci Pascal Canfin d'avoir accepté l'invitation de ce grand rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine, le jour du vote, avec forcément une émission un petit peu particulière puisque nous n'aurons pas le droit de parler d'élections européennes ce jour-là. Très bonne semaine à tous.
Merci Hélène Jo, on vous retrouve en effet un dimanche prochain à 10h pour un nouveau grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Un grand rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs écouter sur europe1.fr.